matin vient Bertrand de Balanda, donc chercheur associé au Centre d'Histoire du 19e siècle. Donc dans son intervention donc de Nos futurs à futur pour tous, donc un titre qui évoque autant les Sex Pistols que Reich Orgasme, si je ne me trompe pas. Métamorphose de l'horizon temporel dans le discours punk entre esthétique fataliste et avenir à reconstruire. Donc on suppose qu'il va nous parler de, je sais pas, l'évolution du punk, la réussir dans le punk sous la forme de quelle forme de subversion adopter, quel rapport à l'autodestruction prendre et peut-être comment se construire une identité en réussissant dans le punk.
Merci Luc, Solveig, Pierre pour cette invitation qui m'honore aujourd'hui. Quand 1991, « Pas fait pour durer, pas fait pour briller » était encore le slogan par lequel le groupe PKRK définissait le devenir punk comme un non-devenir. Réitération aux accents militants du No Future clamé trois lustres plus tôt, la formule pose un double constat. Celui d'une part de la fonction ontologique et quasi programmatique d'une réfutation de tout lendemain, présentant l'avenir comme une catégorie à bannir en soi. Et celui d'autre part de la paradoxale pérennité d'un discours se pensant par son absence de postérité. Alors le No Future aurait donc bel et bien eu un futur et continue d'en avoir un. Le projet punk, qui se verrait qualifié-t-elle rétrospectivement, avec encore une fois toutes les contradictions qu'implique un tel désignant, aurait-il donc réussi ? Et qu'entendre par réussite pour un mouvement précisément né du refus des marqueurs traditionnels du succès, qu'il s'agisse de sa dimension commerciale, épithète porteuse, comme on sait, de toutes les connotations les plus péjoratives, sociale, l'establishment est à la fois un ennemi à abattre et ce contre quoi on se construit, voire personnel, puisque l'auctorialité est elle-même perçue comme une fiction narcissique qu'on détourne par un pseudonymat provoquant. Donc individuellement, l'accomplissement historique et symbolique d'une éthique de l'autodestruction semblerait tragiquement circonscrit dans la brève épopée morbide de Sid Vicious, décédé en 2 février, si mes souvenirs sont bons, qui n'appellerait que d'autres aussi juvéniles et sanglants avatars. Indéfiniment, puisque le punk se présente comme une sorte de fin sans fin, de fin en soi, pourrait-on dire. Violence de l'urgence d'une instantanéité choisie ou subie, distorsion d'un temps se dissolvant dans une immédiateté brutale, omniprésence de la finitude entre hantise et appropriation se présentent comme les conditions de réalisation, ou plutôt de non-réalisation, d'une temporalité punk intempestive, puisqu'elle s'exprime dans sa négation. Alors, l'hypothèse d'une réussite du punk en soi, qui pourrait à son tour être la condition ou la conséquence d'une réussite dans le punk, voire par le punk, ou malgré le punk, comme ça a pu être dit, pourrait dès lors être posée en termes d'un combat contre le temps, dont la dimension apocalyptique qui forme son moment premier, tout d'abord, et qu'on aurait été tenté de penser être aussi le dernier, dont la tension angoissante ensuite, qui la prolongerait par un vertige en suspens, dont la volonté affirmée enfin de survivre dans un monde hostile, motrice d'une dynamique émancipatrice. Là, vous admirez la bonne coordination entre l'image et le son. Alors, le postulat initial du punk réside dans la découverte, mi-effarée, mi-amusée, d'un réel chaotique. En amont du désir de profaner le monde s'impose l'idée selon laquelle celui-ci aurait perdu son sens. Avant même que l'anarchie se formule en discours, elle se révèle comme un état des lieux, celui d'un moment absurde, si cauchemardesque qu'il en devient carnavalesque, illogique et décousu. Alors, God Save the Queen des Pistols, 77 des Clash, lie explicitement l'impossibilité du futur à l'incohérence du présent, qui oscille entre désordre et vacuité, jusqu'à exploser en hystérie connective, pour reprendre le célèbre jeu de mots de Metal Urbain, dans un morceau qui s'ouvre du reste par une forme d'excuse « ce n'est pas ma faute si tout se déglingue ». On reconnaît ici le label Cobra qui vient d'être évoqué par Pierre. Donc l'outrage punk n'est donc pas seulement la réponse revivifiante au silence d'une époque morne et morte, sanglée dans le conformisme petit bourgeois, c'est également un jeu de miroir grinçant, celui d'un nihilisme procédant du néant qu'il dénonce en le reproduisant de manière hyperbolique. Détruire et se détruire forme à la fois un propos iconoclaste qui se décline dans la dissonance de la parole, du texte, du son, de l'attitude, de l'apparence, et un propos mimétique. En cette fin de décennie qui commence la fin du siècle, ce dernier semble se suicider. Dès lors, tout est permis. Exploser, alors je cite les artistes que nous voyons ci-dessus, exploser électrique en mutant métallique, agresser la ville, violer, détruire, voire braquer le président et exploser sa gueule, de poupées dégonflées, seul moyen d'enfin vivre. Vous reconnaissez bien entendu les paroles de panique, ou pire encore, dans le morceau précité hystérico-connectif du même groupe, refuser de céder sa place dans l'autobus aux personnes âgées. C'est plus grave. Exister, c'est donc se déchaîner. Le cri punk tient à la fois du cri primal et du cri terminal. Il est l'explosion éphémère par laquelle la vie seule peut jaillir dans une fulgurance aussi nécessaire qu'unique. Car demain, c'est déjà trop tard. Star Shooter, demain c'est trop tard pour changer d'histoire. Ce demain qu'on nie, hein, crier non à demain, négation qui justifie, dans le même morceau, tout de suite ou bien rien du tout. Donc ce sentiment de toute puissance qui se lit dans ces passages et qui forme un topos punk par excellence, de volupté sadique dans la dévastation, n'est pas qu'une révolte adolescente, c'est l'ultime révolte d'une adolescence qui sait que l'âge adulte ne lui sera pas offert. Alors nous reviendrons, si le temps nous le permet, sur cette métaphore. En ce sens, pour l'heure, le no future est autant une posture que l'expression d'une fatalité. Refuser l'avenir n'agit pas uniquement comme un exéat à la satisfaction immédiate du carnage. Si ce dernier est possible et souhaitable, c'est qu'il forme bien la dernière fête avant l'apocalypse. Il n'est pas innocent que le premier titre cité de Métallu évoque la grand-peur de l'an 1000, hystérie connective donc. Hein. C'est bien une eschatologie millénariste de cette qui sous-tend comme une lame de fond angoissante l'insurrection artistique et existentielle de cette génération qui se sait perdue en même temps qu'elle se sait ou se pense être la dernière. Alors la lecture d'Orwell semble à cet égard avoir particulièrement marqué les esprits, fixant 1984 comme un terminus ad quem à prendre au pied de la lettre. Dès 1977, toujours dans le morceau éponyme des Clash, 77, l'enfer du présent se précipite dans une chute prospective, égrenant dans un rythme qui s'emballe les 7 années à venir en un tourbillon qui se clôt abruptement in 1984. À la même époque, le groupe français 1984, également apparaissant parfois sous le nom de 84 tout court ou de 84 Flesh, alors sachant qu'il y a d'autres groupes homonymes, y compris dans le mouvement punk en France, il y a un groupe actuellement qui a beaucoup de succès qui s'appelle 1994 en Lorraine. Donc 84 Flesh se réclame clairement du célèbre roman dans le 45 tours aux empreintes futuristes qui scellent sa brève existence, tandis que les tout aussi éphémères Private Vices enregistrent de leur côté un prophétique autant que peu connu d'ailleurs, Paris 84. On ne va pas décliner ici toutes les formes que prend alors cette véritable capillarité de l'anticipation orwellienne, notamment outre-Manche, avec par exemple le film Class of 84, qui en 82 annonce une sorte de crépuscule des dieux très lycéen, qui reprend le thème de l'ultra-violence d'Orange Mécanique, un thème voué au succès que l'on sait dans la culture punk, puisque Métallu y voue précocement un titre, et évidemment dans la culture skin avec tout l'aspect Clockwork. Alors cette dernière scène voit du reste naître des formations oeil britanniques à la même époque, dont les noms s'accolent le millésime maudit et qui accentuent les aspects paramilitaires et martiaux du mouvement. Alors, Combat 84, qu'on voit ici, Condemned 84, alors 84 comme condamnation, ça prend décidément des airs de jugement dernier, tandis que les Foreskins résument curieusement l'histoire de l'humanité en une ligne téléologique, partant du chaos pour se briser en 84. Bon, en fait, il s'agit de deux morceaux du groupe en question qui ponctuent le disque. Alors, l'heure fatidique approchant, certains tentent d'ironiser sur la catastrophe imminente. On pense à RAS qui, fin 83, écrit « 84, c'est qu'un 8-1-4, 84, c'est pas du suédois, 84, paraît que la Terre va sauter, 84, paraît que c'est l'année maudite, pourquoi faut-il toujours autant de conneries en 83 ?» Tandis que Kidnap, dans un morceau qui s'appelle également « 1994 », est plus sombre, un seul moyen de te révolter, qu'on crie qu'on te foute la paix, et dans cette vie sans espoir, tu peux gueuler d'un œil noir « nos futurs et pas d'avenir », il le prononce à la française, et montrer à la face des cons ton idéal démocratique, c'est que tout le monde a le droit de crever. Crever comme seule issue, voilà le 45 éponyme de Kidnap, crever comme seule issue, sans idéal, voilà bien le seul horizon que les punks croient apercevoir, tels les cadavres, déjà le nom est évocateur à lui seul, qui demandent dès 82 une piole à cet effet. Je fais allusion évidemment au morceau « Une piole pour crever » du Maxi avec Vatican, avant de chanter inlassablement la fin. Cependant, nombreux durent être ceux qui s'étonnèrent, le 1er janvier 85 au matin, de se réveiller sains et saufs. Alors, le spectre de la fin du monde, une fois éloigné, on eût pu s'attendre à une relative euphorie, ou du moins un juste soulagement. Nullement. Alors, certains, à l'instar de la souris, en 88, opèrent un déplacement phobique sur l'an 2000. D'autres n'ont pas attendu le réveillon fatidique pour déployer le dénouement sordide en un paradigme chronique de l'inéluctabilité de l'échec. Alors, on sait que la décennie 80 voit la galère entrer de plein pied et sans phare dans le champ de la sociologie, étudiée comme le nouveau mal d'une jeunesse, dont François Dubé interroge les modalités de survie, pour reprendre les termes du titre de son ouvrage de 87. Celle d'une génération d'années, dont Gogol Ier borne la destinée entre le crime et le tuc, et dont en 81 déjà, Stashouter se demandait quel bel avenir lui serait réservé. Alors, le morceau éponyme, Quel bel avenir, trace un tableau involuptif des décennies passées, depuis les 50s sans ennemis en face, les 60s étant celle de la guerre d'Algérie, de la baie des cochons, mais également celle de ce méplein d'action, avant que ne sonnent les sirènes trompeuses des 70s haïssables avec leurs idéologies mensongères. Les tefleurs en guise de prise de conscience, tu m'as trompé dans tes discours, tu me disais d'aimer, fallait que je cours, pour un futur au jour le jour. Alors, l'utopie Peace and Love n'était qu'une chimère, à en croire ce texte, une rêverie béate irresponsable laissant après elle un futur en friche où tout le monde joue et triche. L'apocalypse n'est donc plus objet esthétique, elle est réalité quotidienne et tangible. C'est l'heure des grands bilans et les bilans semblent nuls. Qu'est-ce qu'avoir 25 ans à l'automne 83 ? Laissons la parole à Wunderbar. 25 ans que tu es né, 25 ans à galérer, 25 ans de pied au cul, 25 ans qui t'ont déçu, 25 ans que du mépris, 25 ans qui t'ont rien appris, 25 ans à te faire chier, 25 ans envie de crever, décidément, hein, 25 ans mal dans ta peau, 25 ans rien d'un héros, etc. etc. Comment on fait pour vivre comme ça ? S'interroge donc Wunderbar, et sur le même album, le titre précédent se demandait à qui était la faute, hein, si ta vie qui ressemblait à rien, t'attends plus rien de demain, tu t'emmerdes, tu te fais chier, tu t'ennuies, la faute à qui ? Et à la même époque, un autre morceau d'un autre groupe bien connu, Camera Silence, publié « À qui la faute ?». Donc le même gâchis est dénoncé par Camera, le groupe bordelais en question, lorsque une vie pour rien ne peut mener qu'à une chute de 90 étages, suicide. Donc du non-sens normatif auquel les punks de 77 renvoyaient l'image de sa vacuité, on passe à une conscience plus amère, celle d'un non-sens existentiel, à la fois plus vaste et cruellement plus concret, suscitant le passage d'une écriture de la provocation, soit d'un jeu dont le locuteur reste maître, à une écriture morbide, celle de la résiliation désolée. Et chronologiquement, elle se situe précisément dans l'immédiat lendemain du No Future. Et pareil, on constatait amèrement la véracité, la tragicomédie un peu forcée avec ses oripeaux infernaux et orgiaques se présente après coup comme un questionnement ludique et anxieux, l'hyperbole était l'arme la plus sûre pour arracher la réponse, et celle-ci venue, il s'agit bien de la triste sentence que l'on redoutait, le discours bascule dans la nudité du seul tragique. Donc à l'ère du doute succède celle des désillusions et des certitudes moroses. Tu croyais, oui, t'espérais n'avoir pas à te prostituer, tu croyais, oui, t'espérais, regarde-toi maintenant, au cou un joli collier, tes espoirs sous l'oreiller, tu croyais, oui, t'espérais, mais la vie t'est humiliée, on reconnaît Futur pour tous de Reich Orgasme, mais nous sommes encore et toujours en 1984. Si vous lisez un petit peu les sous-titres, vous verrez que j'ai fait un choix judicieux de morceaux et de disques sortis cette année-là. Alors, sont-elles pour autant l'effet d'un pur et simple défaitisme, cette réalité dont le substantif frappe froidement la même année le premier album de Camera, n'est-elle que redoutable et létale ? Alors si l'on considère le mouvement punk au sens le plus biologique du terme, soit comme celui d'un organisme en évolution, on peut historiquement, sociologiquement, musicologiquement, mais également psychologiquement faire remonter ces jeunes années quelque part entre le début et le milieu des années 70, son acte de naissance officiel n'ayant pas été établi à ce jour et Christian l'ayant pour sa part judicieusement fait remonter jusqu'en 1965 dans son dernier ouvrage, si je ne me trompe pas. Donc 77-78 serait moins son apogée que son moment le plus spectaculaire, l'acmé de sa poussée, son adolescence en somme, et alors la métaphore deviendrait plus pertinente, avec toute la dimension critique qu'elle renferme. le tournant des années 80 n'est peut-être que cet éternel premier pas vers l'âge adulte que constitue la prise en compte du principe de réalité. Et le deuil de l'enfance. D'ailleurs, le couplet final du morceau de Reich Orgasme mentionne que dans la tête du locuteur, un enfant vacille. Donc ni réussite ni accomplissement à proprement parler au sens d'un processus exceptionnel, on assisterait plutôt à celui fort naturel au contraire d'une maturation. Cette entrée du punk dans l'âge viril se ramène-t-elle pour autant à un simple vieillissement, à tout ce que l'appropriation d'une première sagesse peut avoir de rassurant comme de banal? Je reviens à Wunderbar, le morceau 25 ans. Il y a 25 ans que tu es là, 25 ans, 25 ans, maintenant tu es grand et tu as 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, bonne question. Eh bien, se dessine une situation aporétique. Si la sagesse signifie assagissement, une culture se définissant par sa vitalité primitive et son enthousiasme, son aspiration à vivre vite et fort, son refus des concessions n'est pas censé connaître de mezzo terminé entre l'exaltation et la mort. Dès 78, du reste, on a pu entendre proclamer la mort du punk. On connaît la formule par laquelle Exploited dément l'assertion posée par Crass 3 ans plus tôt. Moins qu'une gageure ou un dernier hoquet post-mortem, l'affirmation est celle d'une révolte qui refuse de se taire, mais qui se remodélise à présent qu'elle a accompli sa mue. La sortie du moment neurasthénique ne saurait en effet pour le punk être enlisement abasourdi. Elle appelle au contraire de nouvelles formes discursives revivifiant la rébellion. Alors on ne va pas s'attarder ici sur les mutations vestimentaires et musicologiques qui accompagnent ce qu'on a pu appeler la seconde vague, qui selon moi supplante moins la première qu'elle en manque le mûrissement. Le problème ne se pose du reste pas de façon aussi diachronique, puisque les cheminements peuvent en fait connaître des rythmes différents, voire se superposer. Mais reste à savoir si le No Future a disparu en même temps que l'avenir a semblé se dérober. Et pour en revenir encore une fois au morceau de Reich Orgasme, rappelons que son titre « Futur pour tous », qui scande le refrain, comme un véritable manifeste, et que le locuteur de Wunderbar, qui était fort gêné dans son quart de siècle, chante pour sa part un autre refrain bien connu, « J'y ai cru, j'y crois encore, j'y ai cru, j'y crois plus fort », ça c'est dans Paris-Londres. Donc la ferme décision de sortir du gouffre est annoncée dans les deux cas comme un geste salvateur et militant. En soi, il constitue déjà une nouvelle morphologie de l'insurrection, mais qui cesse d'être intransitive pour se reformuler en lutte contre la fatalité. Donc la première comme la seconde formule suggère du reste les diverses pistes que peut emprunter cette rage ressuscitée. D'une part, la fierté identitaire d'appartenance à une communauté, elle aussi arborée précocement par Camera Silence, donc le morceau « Identité », c'est notre identité, tient à la fois du confort procuré par l'adhésion à des codes partagés qui sont autant de remparts contre l'hostilité du monde, armes défensives et offensives, et aux solidarités humaines qui se tissent inévitablement en des liens d'autant plus fermes qu'on se situe dans une marge volontaire et assumée. Donc la solitude du démon exterminateur de panique, je parle du morceau, évidemment, isolé dans son concert destructeur, fait place à la chaleur de l'amitié, dont on connaît la valeur pour rendre courage aux combattants. Alors, peu à peu, les textes faisant l'éloge de la camaraderie prennent une place grandissante. On ne va pas tous les citer ici, mais cela devient un véritable lieu commun régulièrement décliné par tous les groupes de la décennie 80. Ici, je vous montre la pochette de l'anthologie internationale Raya Fan Club de la Souris. Il y a un autre morceau, Raya, chanté par Wunderbar. La souris avait précocement salué les copains, comme on le sait. Caméra à son bal dévorien, qui est également un hymne à l'amitié. Sans oublier tous les célèbres morceaux de Comintern Sect, Unis par le vin, Plus fort que tout, Toujours le premier, etc., etc. Donc, d'autre part, la contestation elle-même se précise, s'éloignant de l'anarchisme nihiliste des premiers jours, pour prendre une coloration sociale et politique plus déterminée, dont les clashs avaient peut-être posé les premiers jalons. Donc l'émancipation comme conquête active, l'éthique coopérative renouvelant les pratiques des contre-sociétés prônées par le socialisme utopique à l'échelle des squats, alors avec encore là des morceaux faisant l'éloge du fonctionnement des squats, Camera Silence encore, Squat Movement de Sherwood, lesquels sont des espaces à la fois vécus et écrits. Ainsi, le premier 45 de Kidnap, il faudra bien qu'un jour tout change, et le morceau du même nom figure-t-il comme un hymne à l'autogestion organisée et respectueuse. Le post-No Future ne se nourrit plus du désespoir de ce lendemain qui n'a pas vu le jour et ne le verra jamais. Il prend acte, bien au contraire, que demain reste à construire, et puisqu'il ne sera décidément pas offert, à arracher. Pour conclure, le locuteur de « Pas fait pour briller », cité en introduction, déclarait « ne pas être un être humain et ne raisonner que dans le vide ». La sentence est-elle si rédhibitoire qu'il y paraît, ou induit-elle une non-durabilité en l'état, appelant bel et bien à la conquête de sa propre humanité en comblant le vide du monde ? La piste est peut-être subjective, mais le texte ne l'exclut pas. Quant au morceau Identité de Caméra Silence, il peut lui aussi se lire sous un jour peu optimiste. Si demain on trouve plus rien à se dire, qu'à la place on choisit de se mentir, pas besoin d'aller se regarder, dans la glace il n'y aura pas de reflet parce qu'on est du même côté. Alors s'agit-il d'une autre déshumanisation fantomatique, d'une cruelle perte de substance ou d'une injonction à refuser de mentir, de se mentir, de se taire, et à conserver, malgré l'apprentissage de la lucidité, ou plutôt grâce à lui, cette capacité à la révolte, ce droit qui est presque un devoir et qui définit le propos punk comme salvateur dans sa dénonciation inaltérée ? Alors, les anamorphoses spatiales du punk avaient été évoquées dans une précédente communication, ont été suggérées ici ces possibles métamorphoses sur le plan complémentaire qu'est le temps, mais l'image du reflet dans la glace ou de son éventuelle absence pourrait induire l'étude d'une troisième dimension du punk qu'on pourrait qualifier d'autoréflexive, voire d'épistémologique. Dès son origine, en effet, ce mouvement n'a cessé de se penser lui-même et partant de se construire en permanence devant son propre miroir. Aussi ponctuellement voilé puisse-t-il paraître. Réflexion sur soi indissociable de la réflexion critique sur le monde, cette persistance dans et par l'autodéfinition inviterait alors à interroger cette forme de réussite, la première peut-être, qu'est la persévérance, celle qui lie hier, aujourd'hui et demain. Je vous remercie.
Alors, merci pour cette intervention subtilement écrite, en plus.